commencer la semaine passée, en fait. Et avant de faire cela, j'aimerais vous inviter à prendre votre Bible dans votre main, ou si vous n'avez pas une Bible avec vous, il y a une feuille avec les notes que vous avez reçues à la porte. Je vous invite à prendre cela. Et on va faire une petite déclaration, parce que la parole de Dieu nous enseigne que ce qu'on dit avec la bouche en croyant du cœur s'accomplit. Amen. Et est-ce qu'il y a des gens qui croient que cette Bible est vraiment inspirée de Dieu? Alors, donc on va la déclarer. Donc, voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Juste pense à ça une minute. C'est la parole inspirée de Dieu, le souffle de Dieu. Je suis tout ce qu'elle dit que je suis. On pense à ça une minute. On fait pas ça d'habitude, hein? Si vous êtes là pour la première fois, mais pense à qu'est-ce qu'on dit. Je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Ça, c'est comme dans les psaumes, c'est là. Pose et réfléchis. Hein? Et puis, je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. C'est quelque chose, hein? Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu. Et je ne serai jamais plus pareil, mais je serai changé et transformé de gloire en gloire dans l'image de Jésus. Amen. Alléluia. En fait, ça, c'est vraiment le sujet aujourd'hui. C'est laissez-vous transformer. Et je crois que nous avons tous besoin d'une transformation. Peut-être, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est satisfait à 100% de qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Ah oui? Il y a rien qui t'aimerait voir changer? Même pas des petites affaires? Mais voilà. Mais moi, je sais pour moi, il y a des choses dans ma vie, même si je marche avec Jésus depuis je sais pas combien d'années, depuis l'âge de 9 ans, j'ai encore des choses à changer dans ma vie. Et vous? Et je sais que ce processus de changement et de transformation, c'est quand même graduel. Il y a des parties, des domaines de la vie qui sont changées plus vite que les autres, n'est-ce pas vrai? Mais ici, on a parlé de cela la semaine passée, que ici, on a deux images. On a une chenille à gauche et puis un papillon à droite. Et vous savez que dans le fond, c'est la même créature, n'est-ce pas? Mais il y a quand même une différence entre une chenille et un papillon. Est-ce que vous êtes d'accord? Une chenille, c'est intéressant, c'est cool, mais un papillon, c'est beau, hein? Ça, c'est toute beauté, n'est-ce pas? Un papillon aussi a des capacités que la chenille n'a pas, n'est-ce pas vrai? Un papillon peut voler. Et ça, c'est vraiment une belle image, je crois, de la vie chrétienne. Il y a des personnes dans la vie chrétienne qui sont encore dans un état de chenille et ils n'ont pas encore appris à voler spirituellement parlant. Et on a besoin de ça. On a besoin d'apprendre à voler au-dessus des obstacles dans la vie, de pouvoir surmonter tous les défis qui se présenteront devant nous dans la vie. N'est-ce pas vrai? Mais notre texte clé aujourd'hui, et c'était la même chose la semaine passée, c'est Romains chapitre 12 et verset 2. Et ça dépasse un peu l'écran, donc regardez dans vos notes. Et on va voir dans la version de Parole vivante, ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. On va juste arrêter, penser, réfléchir une minute aussi. Pensez-vous que ce verset se trouve dans la Bible par hasard? Est-ce que vous croyez que chaque écriture est inspirée de Dieu? Et si on voit dans cet épître que l'apôtre Paul a écrit sous l'inspiration de l'Esprit, si on voit cette exhortation, il y a une raison pour ça. Ça, c'est parce que on pourrait dire que le paramètre de défaut pour la race humaine, même pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ont donné leur vie à Jésus, c'est de se laisser couler dans le moule de tout le monde. On pourrait dire que La tendance naturelle, même pour un enfant de Dieu, c'est de suivre les principes de ce monde et de se conformer aux principes qui régissent le siècle présent. N'est-ce pas vrai? Et c'est pourquoi le Saint-Esprit avait besoin de nous avertir. Fais pas ça! Soyez pas comme tous les autres. Il faut avoir une différence entre vous et ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus. Amen? Donc, il continue, « Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. » Donc, encore, ça, c'est le norme. Même pour un chrétien, le norme, si on ne fait pas des efforts et si on ne fait pas des changements, le norme, c'est de copier les habitudes de ce monde. On voit qu'est-ce que les autres font et on fait la même affaire. N'est-ce pas vrai? Oh, mais tout le monde le fait. Combien de fois on entend ça en tant que parent? On corrige un enfant pour une chose, il dit, « Oui, mais mon frère a fait! » N'est-ce pas vrai? Hein? On voit ça avec Adam et Ève. Dieu parle avec Adam et qu'est-ce qu'Adam dit? « Oui, mais c'est la femme que tu m'as donnée. » Donc, la femme a pris le fruit, donc Adam a fait la même chose. Il s'est laissé influencer par les autres au lieu d'obéir à la parole de Dieu. Et c'est ça qui arrive même avec les chrétiens des fois. On va copier, imiter, faire la même chose que les gens qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus font. Et ça, c'est pas la volonté de Dieu pour nous. Vous êtes d'accord? On doit être différent. Regarde quelqu'un a dit, il faut que vous soyez différent. Hein? Regarde l'autre personne à l'autre côté et dit, waouh, vous êtes vraiment différent. Alors, on voit qu'est-ce qu'on n'est pas supposé de faire. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit nous dit? Laissez-vous. Laissez-vous. C'est-à-dire que c'est pas automatique. Laissez-vous. Il faut donner la permission à Dieu de nous changer. Laissez-vous quoi? Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Alors, donc, on voit ici trois raisons pourquoi il faut être transformé. Premièrement, on voit quoi? On voit qu'on va être capable de discerner ce que Dieu veut de vous. Savez-vous que Dieu veut des choses de vous? Il y a des choses que Dieu, votre Créateur, il veut pour votre vie. Et est-ce que ça vous intéresse de savoir c'est quoi? Qui veut savoir qu'est-ce que Dieu veut pour sa vie? Alors, vous ne serez pas capable de connaître ou de discerner la volonté de Dieu pour votre vie avant d'être transformé par le renouvellement de votre intelligence. Vous ne connaîtrez pas sa volonté pour vous. Puis, c'est quoi l'autre chose? Il dit, ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux. Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient reconnaître ce que Dieu trouve bon? Ça, c'est quelque chose. On va prendre un peu de temps ce matin pour y penser. Parce que dans notre société, je dirais que le grand pourcentage des gens qui nous entourent, ils savent même pas ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas aujourd'hui. C'est tout mêlé. Notre société est mêlée. Vous êtes d'accord? Et on appelle les choses qui sont pas bonnes, bonnes. On appelle les choses qui sont bonnes, mauvaises. Et ça, c'est le résultat des pensées qui ont été pourries à cause du péché. Les gens savent plus comment penser. Et leurs pensées sont tordues et pourries. Et là, si on peut tout simplement se laisser transformer entièrement par la parole de Dieu, là, on va changer de chenille en papillon spirituellement parlant. On va changer de caractère, mais le caractère, la nature qui est déjà en nous va finalement se manifester et les gens vont voir la différence. Amen. Donc, premièrement, on va discerner ce que Dieu veut de nous. Deuxièmement, on va être capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux et puis ce qui lui plaît. N'est-ce pas bon de savoir qu'est-ce qui plaît à Dieu? Et qui vous conduit à une réelle maturité. Dieu veut qu'on devienne mature. Il ne veut pas qu'on reste dans les couches spirituelles pour toute notre existence sur la terre. Amen. Laisse-moi vous dire, c'est le temps aujourd'hui de vider, on pourrait dire, la pouponnière spirituelle pour faire de la place pour les nouveaux bébés. Imaginez, hein, si tout le monde ici avait un biberon. Si tout le monde à côté de vous, hein, ne parlait pas, mais pleurait à chaque fois qu'il avait faim. Il commence à avoir un petit creux et la personne à côté de vous commence à pleurer. Ça ne serait pas une belle expérience ce matin, vous êtes d'accord? Mais savez-vous que spirituellement, c'est ça qui arrive des fois même dans les églises? Les gens, ils ont toutes sortes de manifestations bizarres des fois, mais c'est parce qu'ils manquent de maturité. Et la maturité, c'est le résultat de ce processus de transformation. Tout le monde dit transformation. Encore, on ne veut pas rester chenille, on ne veut pas rester bébé, on veut grandir, on veut discerner qu'est-ce que Dieu veut de nous. On veut reconnaître ce qui lui plaît et ce qu'il pense, et on veut arriver à une réelle maturité en Jésus-Christ. Moi, je veux être un homme fait en Jésus-Christ, un homme qui est mature et qui connaît les choses profondes de Dieu. Et vous? Alléluia. Donc, si on peut regarder la prochaine diapo, on a vu la semaine passée ces deux images. À gauche, on a quoi? Ver de terre. À droite, on a une chenille. Et voici qu'est-ce qu'on a dit. C'est que là, on a deux espèces différentes. Un ver n'est pas une chenille. Une chenille n'est pas un ver. Vous êtes d'accord? Le ADN de ces deux créatures est différent. Il y a quand même quelques similarités. On peut voir, des fois même des personnes vont voir une petite chenille, ils vont dire, oh, c'est un ver, mais c'est pas vraiment un ver comme le ver de terre. Vous êtes d'accord? Et c'est quoi la différence? La différence, c'est que dans le ADN du ver de terre, il n'a pas la capacité de faire pousser les ailes et pour voler un jour. Il serait impossible pour un ver de terre de voler à moins qu'on l'amène à la pêche, comme j'ai dit la semaine passée. Hein? Là, on peut le faire voler. On peut le lancer. Et il va voler quelques minutes et puis il va se faire mordre. On espère. Si on va à la pêche. Mais il y a quelque chose qui est différent. Une chenille, dans cette créature, il contient le ADN ou la capacité. Toutes les caractéristiques du papillon se trouvent déjà à l'intérieur de chenille. Amen. Et dans un sens, on a dit, c'est un peu comme la vie chrétienne. On commence dans cette vie. La Bible dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Nous avons une nature pécheresse. On est dans l'impossibilité d'être comme Jésus-Christ. On est dans l'impossibilité de mener une vie victorieuse, triomphante, et de résister le péché, parce que le péché, c'est dans notre cœur. Le péché, c'est dans notre nature. Je suis incapable de voler sans avoir une régénération. Vous êtes d'accord avec moi? Et donc, dans un sens, quand on confesse Jésus et on vient à lui, la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une quoi? Nouvelle création, une nouvelle espèce de créature qui n'a jamais existé auparavant. Donc, Dieu il n'essaie pas de coller les ailes sur un ver de terre. Et c'est ça qui arrive souvent. Les pécheurs, ils essaient de faire les ailes eux-mêmes et de faire des choses pour atteindre les hauteurs de l'esprit ou pour atteindre Dieu. Mais un homme qui n'a pas Jésus-Christ dans son cœur est dans l'impossibilité de voler spirituellement. Mais quand on confesse Jésus, Jésus vient dans notre cœur et on reçoit une nouvelle nature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes nés par une semence. Tout le monde dit une semence. Mais quand on regarde une semence, on ne voit pas le fruit. On voit juste quelque chose qui contient le potentiel de porter du fruit, n'est-ce pas? Quand on regarde une chenille, on ne voit pas un papillon. Mais on voit quelque chose qui contient le potentiel de devenir papillon. Amen? Et voici là qu'est-ce que je veux vous dire. Dans votre vie spirituelle, Dieu veut que vous soyez transformés de chenille en papillon, spirituellement parlant. Et pour, pour avoir cette transformation, il faut que l'intelligence soit renouvelée. Il faut que votre âme soit changée. Parce que quand vous avez confessé Jésus, votre esprit a été régénéré instantanément. Vous, tout le monde dit, je suis esprit. Je possède une âme. Et je vis dans un corps. Vous êtes un être sur trois dimensions. Et dans votre cœur, Dieu a planté en vous la possibilité, la capacité d'être semblable à Jésus à 100%. Croyez-vous que vous pouvez être comme Jésus? Penser comme Jésus, parler comme Jésus, agir comme Jésus? Vous avez ce potentiel. Mais ce potentiel est dans votre esprit, dans votre âme. Votre âme, on a dit la semaine passée, c'est quoi? C'est votre intelligence, vos émotions et votre volonté, n'est-ce pas? C'est ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu désires ou décides. C'est déterminé par l'âme. Et c'est l'âme qui a besoin d'être changée parce que votre cœur est déjà changé et votre cœur veut toujours faire la bonne chose. Déjà dans votre esprit, vous voulez toujours marcher dans l'amour, toujours être fidèle, toujours maîtriser vous-même, toujours être patient, toujours être joyeux. Parce que c'est qui vous êtes. Dans votre cœur, vous avez ce potentiel, c'est qui vous êtes. Mais dans votre corps physique, votre corps est infecté par le péché et votre corps veut toujours avoir tout ce qu'il veut tout de suite. Il veut jamais attendre, il veut jamais patienter. Votre corps physique a une tendance à être irrité, érupté, avoir piqué des crises. Est-ce que vous savez de quoi je parle? Donc, qu'est-ce que Dieu veut? Il veut qu'on soit conforme à Jésus, transformé de gloire en gloire dans son image. Mais comment? Si Christ est déjà dans mon esprit, si j'ai une nature pécheresse dans mon corps, qui va là jusqu'au moment que je reçois un nouveau corps, c'est quoi la chose qui va faire la différence? C'est mon âme. C'est qu'est-ce que je pense, ce que je ressens et ce que je désire ou décide. Tout le monde dit ce que je pense, ce que je ressens et ce que je désire ou décide va déterminer ma transformation. Amen. Donc, il faut que ce que tu penses change. Il faut que ce que tu ressens change. Il faut que ce que tu désires change. Et la seule façon de changer ces trois choses, c'est la parole de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, j'avais vraiment à cœur, je sais que je fais une petite révision. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend. Et l'entendre une fois, c'est pas assez. Mais ce matin, j'avais vraiment à cœur de concentrer surtout sur cette partie, ce que tu penses. Et peut-être la prochaine fois, après Dr. Gatesman, on va se concentrer sur ce que tu ressens. Comment contrôler tes pensées ce matin? Et puis dans deux semaines, on va parler de comment contrôler tes émotions. Amen. Et puis, on va parler de comment contrôler ta volonté et toujours choisir la bonne chose. Ça vous intéresse? Mais il faut qu'on sache qu'on est capable de contrôler ce qu'on pense. Et c'est important parce que regardons le prochain verset qu'on va voir, les prochaines diapos. On voit qu'est-ce qu'il va, on veut tous être comme un papillon qui va pouvoir voler et puis atteindre les hauteurs dans l'esprit. Mais regardons le prochain verset. Et c'est dans vos notes ici. Et c'est dans le psaume 139, verset 2. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres... Oh, pardon, c'est pas ça. C'est Proverbe 23, 7. Je m'excuse. Je suis allé trop vite. Car comme il a pensé dans son âme, tel il est. Savez-vous que votre façon de penser va déterminer votre personnalité? Amen? Il y a quelque chose que j'ai mis dans vos notes, que je voulais que vous écriviez, vous remplissiez les blancs, s'il vous plaît, parce que ça, c'est une chose que vous pouvez méditer plus tard. Sachez que vos pensées donnent l'orientation à votre attitude. Ce que tu penses va déterminer ton attitude. Si tu as des bonnes pensées, tu vas avoir une bonne attitude. Et savez-vous quoi? Hein, c'est important parce que si ton attitude est positive, tu vas monter. Si ton attitude est négative, tu vas descendre. Amen. Ton attitude est primordiale. On aime travailler avec des gens qui ont une bonne attitude, n'est-ce pas? Mais quelqu'un qui a une attitude qui est pourrie, qui est négative, c'est pas le fun. On veut même pas être dans la même pièce avec cette personne. N'est-ce pas vrai? Donc, ces pensées vont donner l'orientation à votre attitude. Mais votre attitude va changer votre mentalité. Votre mentalité. Vous savez c'est quoi mentalité? C'est une façon, une habitude de penser. On pense, c'est pas juste une petite pensée qui vient et qui part, mais une mentalité, c'est quelque chose qui est ancré. C'est ma façon de voir les choses. C'est ma façon de discerner les choses. Il y a des personnes qui ont des mentalités de vainqueurs. Et à chaque fois qu'ils arrivent dans une place, quelqu'un avec une mentalité de vainqueur, il va arriver à un nouvel emploi, et dans son cœur, il s'attend à ce que c'est juste une question de temps qu'il va avoir une promotion. Il sait que tout le monde va m'aimer ici. Le boss, surtout le patron, va m'aimer ici. Le patron va voir que je vais faire un bel job, et c'est juste une question de temps que je vais monter et je vais avoir une promotion, meilleur salaire et tout. Ça, c'est une mentalité de vainqueur. Ça, c'est le contraire à une mentalité de victime. Une mentalité de victime arrive dans une nouvelle place et tout de suite, il pense, oh, ben, je sais qu'est-ce qui va arriver. Personne va m'aimer. Tout le monde va sûrement parler dans mon dos quand c'est le temps de break. Je sais. Ils voient deux personnes parler. Ils sont convaincus qu'ils parlent contre lui. Hein? Et puis, ils pensent que bon, mais c'est juste une question de temps. Quelque chose va arriver, le patron sera plus content, je serai viré, il va falloir que je cherche un autre travail. Donc, il pense déjà à un nouveau travail avant de commencer. N'est-ce pas? C'est une mentalité. Mentalité de prospérité versus une mentalité de pauvreté. Mentalité de pauvreté, c'est que, oh, non, je vais jamais avoir de quoi de bon. Je suis pauvre, mon père était pauvre, mon grand-père était pauvre, mes petits-enfants vont être pauvres, et c'est ça, je suis pauvre. Et même si quelqu'un essaie de le bénir, ils ne peuvent pas recevoir, parce que pour eux, ils sont pauvres, donc ils vont rester pauvres. Tandis que quelqu'un qui a une mentalité de prospérité dit, bon, tu sais quoi, je sais que Dieu est bon, je sais que Dieu peut voir mes besoins, et si je reçois quelque chose, je n'ai pas peur de donner, et de semer, et de partager, parce que il manquera jamais. Et plus je donne, plus je vais recevoir. C'est une autre façon de penser. C'est une mentalité. Amen. Et si vous êtes capable de changer votre mentalité, qu'est-ce que ça va faire? Votre mentalité va transformer, ou on peut dire révéler, votre identité. Amen. Quelqu'un qui a une bonne mentalité positive et qui pense les pensées de Dieu, il va révéler sa vraie identité, qui il est en Jésus-Christ. Et votre vraie identité va déterminer votre destinée. Votre identité va déterminer votre destinée. Amen. Si vous pensez que vous êtes un gros perdant, vous allez toujours arriver aux endroits entourés par les autres perdants, n'est-ce pas? Et vous n'allez jamais faire quoi que ce soit. Mais tout le monde dit, je suis plus que vainqueur. Tout le monde dit, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Je marche dans la faveur de Dieu. Dieu m'aime. Alléluia. C'est ça la mentalité qu'il faut avoir. Il faut avoir cette mentalité qui va changer votre identité. Votre identité va déterminer votre destinée. Je pourrais dire beaucoup là-dessus, mais on n'a pas le temps. Donc, on parle ce matin de l'importance de nos pensées. Et savez-vous quoi? Selon Psaume 139, 2, Dieu sait qu'est-ce qu'on pense. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. N'est-ce pas quelque chose de savoir que Dieu sait exactement qu'est-ce qui se passe dans votre tête ce matin? Il sait si vous pensez que, wow, c'est bon ce message, c'est pour moi ce matin. Il sait qu'est-ce que vous êtes en train de penser. Je peux adopter une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle orientation. Je peux donner une nouvelle orientation dans mes pensées. Je peux arrêter d'être en victime et commencer à être en vainqueur. Amen. Je peux arrêter de vivre dans la pauvreté et commencer à vivre dans la prospérité. Je peux arrêter de vivre dans la maladie et vivre dans la sainteté, dans la santé aussi. Amen. Changeons notre mentalité. Soyons transformés par la puissance de Dieu ce matin. Alléluia. Nos pensées sont importantes. Des fois, les gens pensent qu'aussi longtemps que je dis pas un mot, je fais pas quelque chose de pas correct, c'est pas grave. Non, mais Dieu sait exactement qu'est-ce que tu penses. Il pénètre de loin. Imaginez si on pourrait projeter sur l'écran ce matin ce que vous pensez. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contents que ça se fait pas? Mais Dieu n'a pas besoin d'écran. Et qu'est-ce qu'on va voir? C'est que Dieu veut que nos pensées soient agréables à ses yeux aussi. On est redevable devant Dieu pour qu'est-ce qu'on pense, pour qu'est-ce qu'on garde dans notre tête. On est responsable devant lui. On a une responsabilité de contrôler nos pensées et ça va déterminer notre destinée. Alléluia. Proverbe 16:30 dit, celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord ses lèvres a déjà consommé le mal. Savez-vous que si quelqu'un décide de se laisser aller et de penser à des choses qui ne sont pas correctes, c'est comme s'il a déjà fait. Mais devinez-vous quoi? C'est la même chose dans le sens positif aussi. Si vous vous livrez à des bonnes pensées, les pensées qui viennent de Dieu, Dieu voit ça aussi et c'est comme si vous l'avez fait. Amen? Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas passer à l'action, parce qu'il toujours, il faut passer à l'action. La foi sans les œuvres est morte. Mais quand même, Dieu voit qu'est-ce qu'on pense, il pénètre de loin nos pensées, mais quelqu'un qui se livre à une pensée, que ça soit négative ou positive, c'est comme s'il a déjà fait dans son cœur. C'est pourquoi quelqu'un qui regarde une femme pour la convoiter, c'est comme qu'il a déjà commis l'adultère, n'est-ce pas? Quelqu'un qui haït son frère, et c'est juste dans sa tête, c'est juste dans ses pensées, mais il a déjà arraché la tête à quelqu'un, c'est comme si c'était déjà fait. Mais de la même façon, si je pense à mon épouse et combien je l'aime et je veux être fidèle à elle, tu vois ça? Tu vois, c'est le même principe, c'est comme si Dieu voit, je suis un homme fidèle, c'est comme si c'était déjà fait. Alléluia. Regardons, on continue. Alléluia. Donc, Ésaïe 55, verset 7, « Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité, c'est quoi? Pensée. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Donc, on voit ici qu'un homme a besoin d'échanger ses pensées humaines pour les pensées qui viennent d'en haut. Si on veut voler comme un papillon, il faut penser comme un papillon. Aussi longtemps que je pense que je suis une chenille, je vais rester par terre. Je vais rester en bas et jamais en haut. Mais si je sais, si j'ai la mentalité d'un papillon, je vais monter dans les hauteurs. Et vous aussi, amen. Regardons, on va voir plusieurs versets. Ça va nous aider. Verset 5 de Romains 8. Dans la version Darby, dit, car ceux qui sont selon la chair, on a parlé des impuces, les désirs du corps qui veulent faire le mal des fois, ceux qui sont selon la chair ont leur quoi? Pensée aux choses de la chair. Mais ceux qui sont selon l'esprit, le Saint-Esprit qui habite dans notre esprit, on pourrait dire, ces pensées sont aux choses de l'esprit. Car la pensée de la chair est la mort. Mais la pensée de l'esprit est vie et paix. Parce que la pensée de la chair est inimitié contre Dieu, car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, car aussi elle ne le peut pas. Et ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. On a dit que la transformation qu'on veut, ça va nous aider à discerner qu'est-ce que Dieu veut et reconnaître qu'est-ce qui est agréable à Dieu et qu'est-ce qui lui plaît, n'est-ce pas? Et on voit, il est impossible pour quelqu'un qui marche selon la chair de plaire à Dieu. Est-ce que vous connaissez des chrétiens, pas vous, mais est-ce que vous avez déjà vu un autre chrétien qui est vraiment né de nouveau, qui a vraiment Jésus dans son cœur, mais agir comme quelqu'un qui ne connaissait pas Jésus? Est-ce que vous avez déjà vu ça chez quelqu'un d'autre? Levez la main. Il y a juste 25%. Non, mais bon, on va ramener ça à nous. Est-ce que ça vous est déjà arrivé une fois dans votre vie chrétienne de faire des choses, de dire des choses, de penser des choses qui n'étaient pas correctes et qui, dans le fond, vous pensiez, vous parliez, vous agissiez comme un pécheur, même après avoir donné votre vie à Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà fait ça? Moi, je l'ai fait. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? C'est parce que j'ai laissé ma chair me dominer. Pourquoi est-ce que j'ai laissé ma chair me dominer? Parce que mon intelligence n'était pas renouvelée. Je pensais pas la bonne chose, je ressentais pas la bonne chose, et je désirais pas la bonne chose. Mais ça commence avec les pensées. Si je suis capable de contrôler mes pensées, je serai capable de contrôler ma chair. Et si je marche selon l'esprit, je n'accomplirai pas les désirs de la chair. Au lieu de piquer une crise, et on est tous différents. Pour quelques-uns de vous, c'est facile de juger les autres. Et est-ce que tu as vu comment il a piqué une crise? Et vous, vous piquez pas des crises, mais vous boudez. L'un n'est pas mieux que l'autre. OK? Moi, quand j'étais très jeune, c'était dans ma nature humaine de piquer des crises. Demande à maman. Je piquais des crises, elle m'a mis dans ma chambre, et puis j'ouvrais la porte de la chambre. Je ne vais pas rester là. Donc, elle garde la porte, elle tient la porte fermée. La prochaine chose qu'elle voit, c'est mon pied qui traverse la porte. Ça, c'était moi. Donc, je sais c'est quoi la nature pécheresse humaine. Je sais c'est quoi la colère. OK? Mais je sais c'est quoi de contrôler la colère aussi. Je sais c'est quoi de changer de chenille en papillon. Je sais c'est quoi de pouvoir dire non. Et je suis content que j'ai fait ça une fois et jamais plus. Et la dernière fois que j'ai vraiment piqué une crise, j'avais seulement quoi, 5 ans, je pense, et ma mère s'est assise sur moi. Elle s'est assise sur moi, elle dit, ça va être la dernière fois que tu piques une crise comme ça. Et je dis, OK, je l'ai jamais fait. Cela ne veut pas dire que j'ai pas piqué d'autres genres de crises après ça, après 5 ans. Mais qu'est-ce qui est important, c'est qu'on est capable d'arriver à la place où on peut contrôler les pensées, parce qu'on contrôle les pensées, on peut contrôler la chair. Amen. Et on n'est pas prisonnier, on n'est pas, la Bible dit en Romains 8, on n'est plus redevable à la chair pour obéir à ses convoitises. Je suis pas obligé d'écouter chaque impulse de ma chair, chaque fois que chaque fibre en moi vibre, quand les fibres vibrent en disant « crie ». Ou quand les fibres vibrent en disant, fais quelque chose, montre-lui qui est le boss, ou fais ceci, ou fais cela. Non, on n'est pas obligé de céder. Je ne suis pas redevable à la chair pour obéir à ses convoitises, mais je suis maintenant redevable à Dieu pour obéir à sa parole. Amen. Et je suis capable. Je suis papillon, pas en chenille. Et vous? Alléluia. Regardons ceci. Verset 17 de Éphésiens 4. Merveilleux. Et puis, on va arriver dans quelques minutes à OMC. Voici donc, en fait, on commence une introduction à OMC ici. Voici donc ce que je dis. OMC, c'est quoi? Oui, mais comment? Oui, mais comment est-ce qu'on peut faire ça? Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les chenilles. Ou comme les vers. Ou comme ceux qui ne connaissent pas Christ, ou comme la Bible dit vraiment ici, comme les païens, qui marchent selon la vanité de leur quoi? De leur pensée. Les païens, ceux qui ne connaissent pas Jésus, est-ce que Dieu aime les païens? Oui, il a donné sa vie pour eux. Il a versé son sang. Est-ce que les païens sont précieux? Oui! Mais Dieu ne veut pas qu'ils restent païens, il veut qu'ils viennent à la connaissance de la vérité. Il veut qu'ils soient régénérés, qu'ils reçoivent la vie éternelle dans le cœur. Mais après ça, il veut qu'ils soient transformés. Il veut que le ver soit régénéré. Ça, c'est miraculeux! Celui qui a été pécheur est maintenant la justice de Dieu. Miraculeux! Mais on a des chenilles justes. Mais qu'est-ce qu'on veut? C'est des papillons justes. Amen. Donc, ils marchent selon la vanité de leur pensée, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu toute sentiments. Il y a des mots-clés dans ce verset que je vous encourage. On parle de qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous décidez et désirez et tout cela. On voit ces choses là-dedans. C'était à cause de leur intelligence qui était obscurcie, leur cœur était endurci, ils ont perdu tout sentiment et ils se sont livrés, ils ont pris une décision de leur volonté à la dissolution pour commettre toute espèce d'impurité jointe à la cupidité. N'est-ce pas intéressant que l'apôtre Paul est obligé, selon l'Esprit Saint, de dire aux chrétiens nés de nouveau, ne marchez pas comme les païens, on ne devrait pas être obligé de le dire. Mais il faut le dire, pourquoi? Parce que même les chrétiens qui ne savent pas être transformés par le renouvellement de l'intelligence, ceux qui ne savent pas contrôler leurs pensées, vont continuer à marcher exactement comme les pécheurs marchent. Vous me suivez ce matin? Est-ce que vous êtes toujours là? Parce que c'est bien important ici. Mais vous, verset 20, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit. Instruit à faire quoi? À vous dépouiller égard à votre vie passée. Du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Et à être renouvelé, souligne le mot renouvelé, dans l'esprit de votre intelligence. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc, on voit, il y a trois choses ici. Si on veut pas marcher comme un païen, il faut faire quoi? Il faut se dépouiller du vieil homme. Il faut être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence, changer votre façon de penser. Et puis, il faut revêtir le nouveau homme. Vous voyez cela? Regardons la prochaine diapo. On va changer de diapé, on va voir quelque chose ici. Donc, est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi? C'est un cocon. J'ai pratiqué, hein? Ça s'écrit C-O-C-O-N. Et maintenant, je sais le dire. Parce que je l'ai lu. Je suis pas mal visuel. Ça, c'est un cocon. Et en fait, c'est un cocon d'un papillon monarque. Monarque, on dit, n'est-ce pas? Monarque. Et c'est quelque chose, parce que on voit la chenille qui possède toutes les caractéristiques d'un papillon, mais ces caractéristiques sont cachées. On ne les voit pas, mais ils sont là. On voit les chrétiens séparés. On voit les chrétiens qui viennent de donner leur vie au Seigneur Jésus, mais ils marchent toujours en bas. Ils sont pas en haut. Ils ressemblent plus à un ver qu'un papillon. Vous êtes d'accord? Mais dans le cœur, ils possèdent tout ce qu'ils ont besoin pour voler. Mais avant de pouvoir être transformé de chenille en papillon, il y a quand même une étape intermédiaire qui est super importante. C'est que il faut que la chenille fasse un cocon, n'est-ce pas? Et à l'intérieur de ce cocon, il va expérimenter le processus de transformation. Et toutes les caractéristiques du papillon vont manifester. Et finalement, il va être capable de sortir du cocon, pousser les ailes, éteindre les ailes, et puis voler. Et c'est la même chose spirituellement. Vous et moi, nous avons besoin de faire, si vous voulez, un cocon spirituel. Et à l'intérieur de ce cocon, on est capable de vivre cette transformation. Et je trouve c'est intéressant parce que il y a deux façons qu'un cocon peut être fait. Ici, c'est avec un monarque. Vous savez que le petit chenille commence dans la vie très petit. Il commence à manger et manger. Il devient trop grand pour sa peau. Donc, il va nuer. Et puis, il va faire du pot neuf. Et puis, il va faire ça en couple de fois. Et finalement, quand c'est le temps pour lui de devenir un papillon, il va muer encore une fois, c'est-à-dire que cette peau extérieure, ok, va devenir dure. Et qu'est-ce que vous voyez là? C'est la peau extérieure du monarque. Et pour moi, ça représente un peu le vieil homme aussi, qu'on a besoin de se dépouiller de ce vieil homme. Et quand il va sortir du cocon, c'est ça, cocon, bon, voilà, il va falloir, dans le fond, qu'il se dépouille de sa vieille peau. Amen. C'est la même chose. Pour nous, on a besoin de se dépouiller. Donc, si on peut regarder, ça devient transparent vers la fin. On ne peut pas voir l'image, mais là, on voit le cocon est là, mais c'est transparent. On voit à travers, on voit les ailes du papillon. Et finalement, si on voit l'autre image, on voit le papillon qui s'est dépouillé du cocon, qui a mis de côté la vieille peau, si vous voulez. Et maintenant, on voit les vraies couleurs du papillon. Et c'est ça qu'on a besoin de faire. On a besoin d'être capable de faire un espace et de créer une atmosphère dans laquelle on peut grandir, changer, être transformé. Mais finalement, on va se débarrasser de cette vieille peau, ok? Mais pas dans le sens de mourir, mais dans le sens, on va se dépouiller de notre dépendance de cette vieille peau. Amen? Je suis plus obligé d'obéir à ces convoitises. Je suis plus redevable pour obéir. Mais il y a un autre verset, si on peut regarder, ou une autre image, je m'en souviens plus, si on peut changer. Ça, c'est un autre genre de cocon. Est-ce que quelqu'un peut me dire, ça c'est fait avec quoi? De la soie. Donc ça, c'est intéressant aussi, parce qu'il y a certaines espèces de chenilles, au lieu de faire un cocon avec la vieille peau, ils vont tisser un cocon. Comment? Ils vont tisser ça avec leur bouche. Et ils vont tisser ce cocon avec leur bouche, et à l'intérieur du cocon, ils vont expérimenter la transformation. Donc moi, je vois encore, on peut prendre les parallèles. On a besoin de se débarrasser du vieil homme, mais aussi on a besoin de faire comme le verset qu'on va voir ici dit, si on peut changer encore. Nous avons en Éphésiens chapitre 4, et c'est peut-être pas là, est-ce que je l'ai mis? On va changer un autre diapo. Je l'ai pas mis, mais c'est pas grave. C'est ici en verset 25. C'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle, tout le monde y parle, selon la vérité à son prochain. Donc, on voit l'importance. On se dépouille du vieil homme. Mais dans le même passage, il dit de renoncer les mensonges et de parler selon la vérité. Voulez-vous contrôler vos pensées? Il faut se dépouiller du vieil homme. Il faut dire les bonnes choses. Mais là, on va aller plus loin. Et on va parler de comment se tisser un cocon de, pas de soie, mais de foi. Amen. Combien de vous voulez être transformé de chenille en papillon ce matin? Alléluia. Galates chapitre 6, verset 7. On va voir ces choses assez rapidement. Et surtout, je vous donne le menu aujourd'hui pour que vous puissiez aller à la maison et méditer ces choses. Galates 6, verset 7 dit, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. » Ce qu'un homme aura semé, il moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Savez-vous que vos pensées sont comme des semences? Et si vous semez pour les choses de la chair, vous allez récolter la corruption et la destruction. Mais si vous semez pour les choses de l'esprit, vous allez récolter quoi? De l'esprit, des choses de la vie. On parle toujours de contrôler ses pensées. Prochain verset, regardons. On va lire deux, trois versets, puis on va vraiment voir le OMC. Philippiens 4, 8 dit, « Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensée. Donc, voici la critère. Si je veux être transformé et devenir semblable à Jésus-Christ, c'est ça qu'il faut que je pense. Les choses qui sont vraies, honorables, justes, pures, aimables, qui méritent l'approbation, dignes de louange, etc. Mais comment est-ce que je peux faire cela? Parce qu'encore, la tendance humaine, c'est de ne pas avoir ces genres de pensées. Combien de vous savez que le monde est rempli des pensées impures? Le monde est rempli des pensées qui ne sont pas vraies, les mensonges sont répandus. On a besoin de changer notre façon de penser. Comment? Proverbe 4 nous donne un peu de conseils ici. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Donc là, on voit dans ces versets cinq choses. Et ça, c'est le OMC aujourd'hui. Je vais vous laisser avec ces cinq choses. Cinq choses à faire, des choses pratiques, pour être sûr et certain que qu'est-ce que vous pensez est vrai, pur, digne de louange, honorable, etc. Est-ce que ça vous intéresse? C'est quoi la première chose? Numéro un, choisissez bien ceux que vous fréquentez. Et plus loin, si vous lisez le contexte de Proverbe 4, vous allez voir ce principe. Mais laissez-moi vous dire une chose. Quand la chenille veut faire un cocon, il faut qu'il trouve la bonne place pour le faire. Souvent, c'est à côté d'une feuille ou à côté d'une roche quelque part, mais il va trouver un environnement qui est correct pour qu'il puisse faire son cocon. Amen? Et c'est la même chose, si vous voulez faire un cocon de foi, si vous voulez vraiment faire en sorte que votre façon de penser est changée, il faut que vous soyez à la bonne place avec les bonnes personnes. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Vous voyez que le cocon était quand même dans l'environnement, c'était quand même dans le monde, mais c'était un environnement protégé. Et qu'est-ce que je suis en train de dire? Est-ce qu'il faut que vous ayez au travail? Oui. Est-ce qu'il faut qu'on vive dans ce monde? Oui. Est-ce qu'il faut qu'on soit en contact avec les pécheurs qui ont des mauvaises mentalités? Oui. Mais aussi, il faut qu'on prenne une décision de passer du temps de qualité dans la présence de ceux qui pensent de la bonne façon, qui ont la bonne attitude, qui pensent la bonne chose, qui désirent la bonne chose et qui ressentent la bonne chose. Parce que c'est contagieux. Allô, est-ce que vous êtes encore là? Savez-vous que si vous fréquentez des personnes qui sont convaincues que la guérison divine, c'est plus pour aujourd'hui, et ils parlent toujours de ça, mais écoute, les miracles, c'est plus pour aujourd'hui, et la guérison, c'est pas pour aujourd'hui. Si vous fréquentez des personnes qui parlent comme ça, qui pensent comme ça, savez-vous quoi? C'est juste une question de temps que vous allez finir par penser comme ça. Amen? Si vous êtes toujours avec des personnes qui pensent que ce n'est pas grave de faire certaines choses et de consommer certains produits, laisse-moi vous dire, c'est juste une question de temps que vous allez finir par penser la même affaire et par consommer le même produit. Amen? Faites attention. Et on voit en Actes chapitre 2, après que les gens ont donné leur vie au Seigneur Jésus, qu'ils étaient tous ensemble et se donnaient avec assiduité à l'enseignement des apôtres. Ils étaient souvent assemblés. On a juste quelques exemples ici en verset 46. Ils étaient chaque jour. Soulignez cela. Chaque jour, tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait quoi? Chaque jour à l'Église, ceux qui étaient sauvés. Je vais juste vous proposer quelque chose. Le renouvellement de votre pensée et de votre intelligence, c'est votre responsabilité. Je ne peux pas le faire pour vous. La personne à côté de vous ne peut pas renouveler votre intelligence non plus. Pourtant, vous n'êtes pas appelé à renouveler l'intelligence tout seul non plus. On est appelé à être ensemble pour le faire. Moi, j'ai besoin d'être influencé par des personnes qui pensent la bonne chose, qui ont la bonne attitude et qui savent qui ils sont en Jésus-Christ. Et vous aussi, vous avez besoin de cela. Amen. Moi, l'Église, j'ai cette conviction, on a besoin de passer du temps ensemble, mais de la bonne façon, faisant la bonne chose. On doit s'exhorter les uns les autres, on doit s'encourager, on doit s'entraider, on a besoin de cela. Il faut choisir de fréquenter les bonnes personnes. Amen. Numéro 2, déterminez en avance ce que vous regardez. On parle de qu'est-ce que vous pensez. Les pensées peuvent être alimentées ou une pensée peut crever de faim. Allô? Et qu'est-ce qu'on veut faire? C'est alimenter les bonnes pensées et laisser mourir de faim les pensées négatives. Mais souvent, dans notre société, nos pensées sont bombardées à travers les images qui passent devant nos yeux, n'est-ce pas vrai? Et comment est-ce qu'on peut choisir en avance qu'est-ce que nous allons regarder? Il y a certaines choses, j'ai pas le choix. Je suis sur l'autoroute, il y a une annonce, il y a des choses. Moi, j'ai pas choisi de mettre cette annonce sur l'autoroute. Il y a des personnes qui ont un problème avec la consommation et puis une annonce d'alcool. Il veut pas penser ça, mais l'annonce est là. Ou quelqu'un qui a un problème avec la pornographie et tout d'un coup, bon, il y a une annonce avec une fille qui est presque nue. On n'a pas demandé ça. Vous êtes d'accord avec moi? Mais quand même, on peut prendre une décision en avance qu'on va maîtriser nos yeux. Et c'est une chose, c'est on sait que, bon, il y a une annonce, on peut voir avec la vision périphérique, par exemple, c'est là, mais on peut prendre une décision de ne pas rester avec les yeux dessus. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Qu'est-ce que le psalmiste a dit? J'aime beaucoup ce verset. « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je haïs la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. » Ce que vous regardez va déterminer ce que vous pensez. Allô? C'est-à-dire que, encore, il y a certaines images, j'ai pas le choix, ça va flasher devant moi, mais j'ai quand même un choix. Est-ce que je vais rester avec mes yeux fixés dessus? Ou est-ce que je vais prendre une décision de virer et regarder l'autre côté de la rue? Messieurs, parce que souvent les hommes ont vraiment un problème avec ça, ils sont plus visuels que les femmes. Laisse-moi juste vous dire, vous savez dans quelle partie du dépanneur se trouvent certaines revues, n'est-ce pas vrai? Et vous avez juste à prendre une décision avant d'ouvrir la porte du dépanneur que je vais même pas aller dans cette section du magasin. Allô? Mais aujourd'hui, le problème, c'est que avec les ordinateurs, l'Internet, OK, c'est encore pire. Et si c'est nécessaire, prenez une décision en avance. Faites tout ce qu'il faut faire. Jésus a dit, si vos yeux vous causent à pécher, qu'est-ce qu'il a dit de faire? C'est un peu sévère, n'est-ce pas? Ben, si c'est ça que ça prend, fais-le. Mais je dis pas littéralement, là, OK? Je vais avoir des avocats qui vont m'appeler. Qu'est-ce que vous avez dit à votre congrégation? Non. Mais prenons une décision. Qu'est-ce que vous regardez à la télévision? Là, on parle des choses graves. Mais savez-vous qu'il y a certaines choses qui ne sont pas forcément un péché? Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Et je suis convaincu que ce principe de qu'est-ce qui rentre dans les yeux, on voit le côté négatif, mais qu'est-ce qu'il faut faire dans le fond? C'est de remplir nos yeux avec des choses positives. Il faut qu'on regarde des belles choses. Il faut qu'on voit les choses qui vont nous édifier. Okay? Il faut que je donne plus de temps à regarder qu'est-ce qui est écrit dans la Bible, par exemple, que de regarder les images à la télévision. Mais si on ferait un sondage ce matin, combien d'heures est-ce que vous avez regardé la télévision et combien d'heures vous avez regardé votre Bible? J'ose dire que 95% des réponses des personnes ici présentes, des bonnes personnes qui aiment Jésus, diraient, mais pour dire la vérité, j'ai regardé plus la télévision que j'ai lu ma Bible. Combien de vous croyez que j'ai peut-être raison? Donc, et on se demande pourquoi est-ce qu'il y a tant de chenilles dans l'église? On veut les papillons. Prenez une décision en avance, qu'est-ce que vous allez regarder? Numéro 3, faites attention à ce que vous écoutez. Parce que, encore, les images entrent par les yeux, les sons, les paroles rentrent aussi par les oreilles, et ce que je vois et ce que j'entends va déterminer qu'est-ce que je pense, n'est-ce pas? Jésus a dit, en Marc 4, 24, faites bien attention à ce que vous entendez. C'est Jésus qui l'a dit. Faites bien attention. Regarde quelqu'un encore à côté de vous. Il dit, faites bien attention à ce que vous entendez. Est-ce que je suis en train de dire qu'on devrait jamais regarder un film, jamais regarder la télévision, jamais écouter la radio, jamais lire un journal? Non, j'ai pas dit ça. Mais quand même, Faisons attention. Je pense qu'on ne devrait jamais écouter ou regarder les choses qui sont pourries. Vous êtes d'accord avec moi? Et on devrait quand même limiter les choses qui sont banales. On devrait quand même écouter plus la parole de Dieu qu'on écoute les opinions du monde. Parce que ça va changer votre mentalité. Amen. Puis, numéro 4, triez bien. Il faut faire le triage de ce que vous gardez dans votre cœur. Le mot-clé, là, c'est garder. On a vu ça en Proverbes chapitre 4. Aussi, garde dans le fond de ton cœur. Jacques 1, 21 dit, c'est pourquoi rejetant, souligne le mot rejetant, toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Donc là, soulignez le mot recevez. Deux mots qui commencent avec R. Rejetant, recevez. Il y a des choses à rejeter de notre cœur, il y a des choses à recevoir dans notre cœur. Amen. Il faut être capable de faire le triage. Il y a certaines choses qu'il faut pas que ça reste dans le cœur, parce que si ça reste dans le cœur et j'y pense, ça va donner une orientation à mon attitude, qui va changer ma mentalité, qui va révéler mon identité, qui va déterminer ma destinée. Amen? J'aime ça avec Marie. Marie a entendu des prophéties et des choses que les gens ont dit à propos de Jésus. Et Luc 2, 19 dit, Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Qu'est-ce que vous repassez dans votre cœur? Encore, vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de la tête, mais vous pouvez les empêcher de faire le nid dans les cheveux. Il y a certaines pensées qui vont venir et vous ne pouvez pas contrôler ça. Mais dès que la pensée cogne à la porte, vous avez le choix de le rejeter ou de le recevoir. Le voleur cogne à la porte chez moi. Je ne suis pas obligé, mais juste parce qu'il a sonné la porte, par politesse, de le laisser entrer. Je dis, non, monsieur, tu n'as pas le droit d'entrer. C'est pourquoi la Bible dit, même il donne un langage en 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5, que nous prenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ et nous sommes prêts à punir toute désobéissance. Moi, je fais attention. C'est comme quand on va à l'aéroport, une personne veut passer l'immigration, ils vont demander, qui êtes-vous? C'est quoi votre identité? D'où est-ce que vous venez? Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est quoi la nature de votre visite? Est-ce que vous amenez des choses avec vous? On devrait faire la même chose avec les pensées. Vous venez d'où? Est-ce que vous êtes une pensée divine ou est-ce que vous venez du diable? Ou de ce système du monde? Qu'est-ce que vous voulez faire dans ma vie? Je ne vais pas vous laisser entrer. Amen? Et n'oubliez pas, tout commence avec une petite pensée. Vous dites, oh, c'est innocent. Mais vous ne savez pas que cette petite pensée innocente a une bombe atomique dans la valise. Et c'est juste une question de temps que ça va exploser. Donc, contrôlons nos pensées. Faisons le triage. Décidons. Faire passer tout sous le scanner de Philippiens 4, 8. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pur? Est-ce que c'est digne de louange? Sinon, pas d'accès. Amen? Et puis, numéro 5, veillez à ce que vous déclarez. Tous ces principes se trouvent en Proverbe 4, 20 à 24. Je vous encourage à le lire plus tard. Veillez à ce que vous déclarez. Si l'orgueil te pousse à des actes de folie, et si tu as de mauvaises pensées, est-ce que ça vous est arrivé d'avoir une mauvaise pensée? Qu'est-ce que la Bible dit? Mets la main sur la bouche. Si la pensée est entrée, si la pensée s'est infiltrée, il ne faut pas le laisser là, mais surtout, il ne faut pas donner une voix à cette pensée. Parce que dès que vous donnez une voix à la pensée, savez-vous qu'est-ce qui se passe? Deux choses. Vous déclenchez une loi spirituelle, parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Deuxièmement, quand vous déclarez la mauvaise pensée, ça sonne et ça revient à vos oreilles, et vous entendez la pensée, et puis le cycle vicieux commence. Amen? Alors, c'est pourquoi renoncez au mensonge, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Cinq choses à faire pour tisser un cocon de foi, pas de soi, mais de foi. Choisissez bien ce que vous fréquentez. Déterminez en avance ce que vous regardez. Faites attention à ce que vous écoutez. Triez bien ce que vous gardez dans votre cœur et veillez à ce que vous déclarez. C'est des choses simples, Mais je vous garantis, est-ce que vous pouvez imaginer qu'est-ce qui se passerait si, cette semaine, avant dimanche prochain, chacun de vous, prendrez une décision de donner plus attention à la parole de Dieu que à la télévision ou à la radio ou les sports ou n'importe quoi d'autre, les jeux que vous aimez jouer ou n'importe quoi. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'est-ce qui se passerait si chacun de vous, sans exception, vous viendrez à l'église la semaine prochaine après avoir inondé vos yeux, vos oreilles, rempli votre bouche avec la parole de Dieu? On va arriver, on n'aura plus de place parce que les ailes vont avoir poussé, puis on va voir les papillons ici à l'église. Amen. On va se lever debout, on va prier. Ce message vaut absolument rien à moins que vous prenez une décision ce matin de la mettre en pratique. Alléluia. Mais moi, je veux être changé, transformé. Je veux une nouvelle mentalité. Je veux une meilleure attitude. Amen. Merci, Père Céleste. Seigneur, nous te remercions. On veut, Seigneur, ce matin, s'engager à contrôler nos pensées. Seigneur, tu dis que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu. Puissantes pour renverser les forteresses. Les forteresses sont là parce que nous avons donné place aux imaginations. Les imaginations sont là parce qu'on n'a pas pris chaque pensée captive à l'obéissance de Christ. Chaque pensée captive. Seigneur, on ne veut pas juste être sur le défensif, on veut être sur l'offensive. On veut, Seigneur, avec une résolue, Seigneur, on veut poursuivre ta parole. On veut mettre ta parole constamment devant nos yeux. Mon fils, tu as dit en Proverbe 4, tu es notre Père et tu nous donnes les instructions. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Seigneur, qu'on soit plus attentif à ta parole que n'importe quoi cette semaine. Plus que la télévision, la radio, les journaux, les opinions des amis, et qu'on soit attentif à ta parole. Seigneur, qu'on prête l'oreille à tes discours. Que ces choses ne s'éloignent pas de nos yeux. Qu'on les garde dans le fond de notre cœur. Car c'est la vie pour ceux qui le trouvent. Et la santé pour tout le corps. Est-ce qu'il y a des gens ce matin, j'aimerais juste savoir, je crois que le Seigneur veut que je le fasse. Je vais demander à des gens de répondre ce matin. Cet acte de foi, est-ce qu'il y a des gens ce matin qui, vous savez, peut-être vous êtes déjà en train de prendre des bonnes décisions, mais vous savez que il y a toujours place à amélioration et que cette semaine, vous pouvez faire même davantage pour contrôler vos pensées et penser selon la parole de Dieu. Moi, de un, je vais être la première personne à lever la main ce matin et dire, moi, je veux contrôler mes pensées et laisser le Seigneur me transformer par le renouvellement de mon intelligence. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va vraiment s'engager, passer plus de temps dans la parole que n'importe quoi cette semaine? Moi, je vais le faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut le faire cette semaine? Alléluia. Dans le fond, je crois qu'il n'y a pas une personne qui ne devrait pas. Je ne suis pas juste des choses de télévision, les choses de même. Parce que dans le fond, moi, je ne m'en souviens même plus la dernière fois que j'ai regardé la télévision. Mais il y a d'autres choses pour moi que j'ai besoin d'aller plus loin avec le Seigneur. De penser davantage comme lui. Je lève ma main. Haut dans l'air, du Seigneur, je veux que ta volonté soit faite dans ma vie. Je veux être transformé de gloire en gloire. Alléluia. Je veux, Seigneur, que mes yeux, mes oreilles, ma bouche soient remplies de ta parole. Que mon cœur soit rempli de tes pensées, au nom de Jésus. Amen. On va prier ensemble. Père Céleste, je m'engage cette semaine à chercher ta face, à remplir mes yeux, mes oreilles, ma bouche et mon cœur avec tes pensées. Merci Seigneur pour la transformation. Je serai transformé de gloire en gloire dans l'image de Jésus. Et pendant que tout le monde est là et avec cette attitude de prière, j'aimerais juste savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Vous dites, mais pasteur, ça serait tout beau, mais si je suis honnête avec vous et je suis honnête avec moi-même, je ne suis même pas certaine que j'ai reçu la vie éternelle dans mon cœur. Je ne suis pas certaine que je suis déjà chenille. Je me sens plus comme un ver qui n'a pas vraiment la capacité. Je n'ai pas encore reçu le miracle de la nouvelle naissance. J'ai besoin de donner ma vie à Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, si vous êtes honnête, vous savez que votre cœur n'est pas en règle avec Dieu? Si vous êtes honnête avec Dieu et avec vous-même, vous savez que si en quittant de l'église ce matin, vous tombez, votre cœur arrête de battre, vous tombez mort, vous n'avez pas l'assurance à 100% de passer l'éternité au ciel. J'ai une bonne nouvelle pour vous. La Bible dit que si tu confesses avec ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et Jésus-Christ a dit ceci, si tu me confesses avec ta bouche, devant les hommes, je te confesserai devant mon Père. Mais si tu me renies devant les hommes, je te renierai devant mon Père. Alors ce matin, je te donne l'occasion. Parce que quelqu'un, je vais compter à trois, taper ma main. Et si tu as besoin de donner ta vie à Jésus ce matin, juste lever la main haut dans l'air, on va prier ensemble. Vous pouvez partir d'ici, sachant, sans aucune doute que vos péchés sont lavés, que vous avez Jésus dans votre cœur. Qui a besoin de donner sa vie à Jésus? 1, 2, 3. Il y a une personne ici, il y a quelqu'un d'autre, juste lever la main haut dans l'air. Est-ce que quelqu'un d'autre? Je vais te demander de venir ici en avant. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a besoin de venir? Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour lui ce matin? C'est quoi ton nom? Daniel. Donc Daniel, on va faire une prière. J'aimerais que tout le monde prie avec toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a besoin de donner sa vie à Jésus? Je ne vous invite pas forcément à devenir membre de cette église, mais de devenir membre de la famille de Dieu. Donc Daniel, on va faire cette prière. Il n'a pas honte de dire qu'il accepte Jésus ce matin. Donc, faisons cette prière ensemble avec Daniel. Père Céleste, aujourd'hui, j'ai pas honte de confesser Jésus. Et de ma bouche, je déclare que Jésus-Christ est mon Sauveur et mon Seigneur. Il est mon Maître. Et à partir d'aujourd'hui, je vais le servir. Je te confesse devant ces hommes. Je sais que tu vas me confesser devant le Père. Mes péchés sont pardonnés. Je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Merci Seigneur. Je suis ton enfant. Et je suis sauvé. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour Daniel? Je veux te remercier. Tu sais Daniel, on a, Sylvain, ici, on a une Bible qu'on aimerait t'offrir gratuitement, et si tu as des questions, il est là pour prier.